Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Nous allons donc retrouver nos Indiens des plaines américaines. Et quand je vous ai quitté la semaine dernière, je vous parlais des agents aux affaires indiennes. Eh bien, sachez, nous allons continuer à en parler d'abord, et que c'était quand même le travail le plus ingrat de l'Ouest. Plus que tout autre, l'agent des affaires indiennes était pris entre deux feux. Appointé par le gouvernement pour vivre parmi les Indiens, il répartissait les annuités qui souvent arrivaient en retard. Sans aide aucune, il était censé combattre les flots de commerçants qui grugeaient les Indiens et leur vendaient illégalement du whisky. L'agent devait aussi dispenser l'enseignement agricole et apprendre à travailler un sol qui, souvent trop aride pour être mis en culture. Et le plus souvent avec des instruments très mal adaptés. Il écartait aussi les colons blancs des terres des Indiens. Et dans ce domaine, il était particulièrement impuissant du fait même que le gouvernement cédait aux demandes des pionniers avides de terre. Pour toutes ces tâches, il recevait un salaire inférieur à celui d'un maître d'école de village. Et naturellement, la plupart des agents étaient inefficaces ou malhonnêtes. Mieux que tout autre, William Bent sut voir l'aspect paradoxal du problème. Il avait toutes les qualités requises pour devenir un agent indien. En effet, durant des années, il avait séjourné comme commerçant respecté parmi les Cheyennes et les Arapahos. Bent parlait le langage des Indiens et avait épousé une Cheyenne. Lorsque la ruée vers l'or, à son point culminant en 1858-59, amena des milliers de Blancs sur les territoires des Cheyennes et des Arapahos, les Indiens se tournèrent vers lui. C'était le seul Blanc en qui il faisait confiance. À sa grande surprise, le gouvernement fédéral tint compte de ses préoccupations et le nomma au poste d'agent des affaires indiennes. Avec ferveur, il plaida la cause des Indiens. Il écrivit à Washington « Une guerre désespérée entraînant leur famine et leur disparition » est aussi imminente qu'inéductable, à moins que des mesures ne soient prises d'urgence pour l'éviter. Cependant, Bent comprit à la longue que le pouvoir des Blancs était trop puissant pour qu'il puisse y résister. Après avoir essayé de modifier les modalités d'un nouveau traité qui allait considérablement réduire l'étendue des terres indiennes, il démissionna. Extrêmement découragé. Mais il existait un nombre incroyable d'agents corrompus. Samuel Colley, représentant américain auprès des Cheyennes, demanda à son fils de le rejoindre dans la réserve. Le jeune homme arriva avec environ 30 vaches marquées à son nom, et suivant sans doute l'exemple de son père, il amassa une petite fortune évaluée à 25 000 dollars grâce à la vente de marchandises qui appartenaient de plein droit aux Indiens. En 1869, dans une autre réserve, un agent prit ses fonctions et s'aperçut que son prédécesseur n'avait pas été vu sur les lieux depuis près d'un mois. La caisse ne contenait plus d'argent et les factures impayées se montaient à 14 000 dollars. Durant 4 ans, les Indiens n'avaient rien reçu des annuités promises en compensation de leurs terres. William Barat, nommé comme agent de la réserve des Umatilla, dut être remplacé pour avoir tué un Indien. Tomati Davenport, son successeur, fut étonné en découvrant l'existence d'un maître d'école salarié, mais sans école. Ce gaillard, très entreprenant, servait de secrétaire particulier à Bernard. Il avoua à Davenport que la place d'agent auprès des Umatillas rapportait annuellement 4 000 dollars, alors que le salaire d'un agent ne dépassait pas 1 500 dollars. L'ancien montagnard Thomas Fitzpatrick fut également un bon agent et déploya les mêmes qualités que Bent. Les Indiens le surnommaient « Main cassée ». Promis à son poste en 1846 pour s'occuper des Indiens de l'Arkansas, de la Platte et du Kansas, Fitzpatrick fut l'un des rares hommes de la région à mesurer l'importance de sa tâche. Les tribus en question englobaient divers Indiens de l'Ouest, des Indiens particulièrement belliqueux, parmi lesquels on comptait les Sioux, les Snakes et les Arapaho. Selon son conseil, le gouvernement installa un fort à Laramie sur le site d'un ancien poste de troc de fourrure près du lieu où le Laramie et la Platte se rejoignaient, ce qui forme aujourd'hui le Wyoming du Sud. Au printemps 1850, Fitzpatrick vit passer près de Fort Laramie 50 000 chercheurs d'or en route vers les filons de l'Oregon et de la Californie. Il laissait un sillage de dévastation dans les plaines. Sur des étendues où l'herbe disparaissait, il y avait par milliers des carcasses de bisons. La faim et le choléra tuaient indifféremment Indiens et Blancs. Les Sioux conservèrent néanmoins leur calme. Je n'ai eu aucune raison de me plaindre ces 2 dernières années du comportement des Indiens, nota Fitzpatrick dans l'un de ses rapports. En revanche, les plaintes des Indiens étaient innombrables. Même les Cheyennes, cette tribu plutôt paisible qui dépendait de Fitzpatrick, s'était mise à harceler les convois de chariots. L'agent commençait à s'inquiéter. Les tribus courroucées ne tarderaient pas à se révolter contre les installations des Blancs et même à se battre entre elles. C'était, pensait-il, une simple question de temps. De plus, il estimait qu'en vertu de la promesse faite par Washington 50 ans plus tôt, les Indiens avaient droit à un déménagement pour les dégâts causés à leurs terres et pour le massacre des troupeaux de bisons. À son propre étonnement, Fitzpatrick réussit à persuader le Congrès de débloquer les fonds nécessaires à la tenue d'une conférence réunissant à Laramie toutes les tribus placées sous sa juridiction. Son but était d'assurer la sécurité des convois des migrants en obtenant des Indiens un droit de passage sur leur sol et, chose plus importante, de définir avec précision les frontières de leur domaine afin que l'ensemble des plaines ne soit pas mis à feu et à sang par la guerre. Fait inédit, en cet automne 1851, des représentants de presque toutes les tribus, y compris les émissaires des Sioux et des Crows, qui étaient pourtant des ennemis mortels, se rendirent à Laramie. Il y eut même une délégation de Shoshones, les ennemis héréditaires des Sioux et des Cheyennes, qui avaient quitté en l'occurrence leur terrain de chasse pour se rendre à l'ouest. Les Comanches et les Kiowas, prétextant qu'ils avaient de nombreux chevaux et ne voulaient pas se heurter aux voleurs opérant aux alentours de Fort Laramie, refusèrent de quitter leur territoire et de se rendre au sud. La conférence réussit toutefois à grouper 10 000 Indiens relevant de 9 nations différentes. Jamais on n'avait vu sur le continent une réunion d'Indiens aussi considérable. À juste titre, un observateur blanc regretta l'absence d'un daguerrotypiste ou d'un peintre. Ce fut presque un miracle que ces tribus des plaines du centre et du nord, si fiers de leur courage et de leur puissance, aient pu se rassembler et signer un traité de paix avec sincérité. Les tribus acceptèrent de délimiter leur terrain de chasse, alors que jamais auparavant les Sioux et les Crows n'avaient admis l'idée que d'autres Indiens puissent seulement avoir le droit d'exister quelque part sur cette terre. Ainsi, les États-Unis parvinrent-ils à faire régner la paix dans les plaines en délimitant les territoires des diverses tribus. Entre autres stipulations, les Indiens acceptèrent que le gouvernement, le cas échéant, établit des routes et des postes militaires sur leur domaine. Juste compensation, les signataires recevaient une redevance annuelle de 50 000 dollars pendant 5 ans. Lors de la rectification, le Sénat ramena cette période à 10 ans, ou à 15 ans, selon le bon vouloir du président. Les deux parties étaient pleines de bonne volonté, mais un tel traité ne pouvait tenir bien longtemps. Les Blancs considéraient alors les territoires des Indiens comme des terres à traverser. Ils ne pensaient pas au nombre d'Américains appelés à voyager à travers ces domaines durant les années futures, ou même à venir s'installer sur place. Les Indiens ne préjugeaient pas davantage de l'avenir. En effet, ils étaient prêts à tolérer l'établissement de quelques postes militaires et le passage de rares colons, mais ils se refusaient à songer aux ruées des grandes foules sur leur bien-aimée terre-mère. Il fallut tout juste 3 ans et un incident mineur pour rendre caduc le traité de Laramie. Au cours de l'été 1854, les tribus s'assemblèrent dans les environs de Fort Laramie pour la répartition des redevances annuelles. Un guerrier Sioux abattit d'un coup de feu une vache estropiée. Sans doute l'animal s'était-il égaré lors du passage d'un convoi d'immigrants ou avait-il été abandonné. Espérant une compensation, son propriétaire se plaignit au commandant militaire du Fort Laramie et un jeune lieutenant à la tête chaude, John L. Grattam, s'empressa de pourchasser l'offenseur. Il s'arrogeait là un droit non prévu dans le traité, qui stipulait que tant que les Blancs, que les Indiens, auraient à punir leurs propres fauteurs de délits. Les Indiens, après de longues palabres et des protestations, se refusèrent à livrer aux soldats le guerrier Sioux. Grattam ordonna le tir d'une slave. Un chef important fut blessé à mort. Dans la bataille qui s'ensuivit, Grattam et les 30 hommes de son détachement furent massacrés jusqu'au dernier. Le corps de Grattam fut découvert percé de 24 flèches. Naturellement, l'armée organisa une expédition punitive et naturellement aussi, les Indiens ripostèrent. Du climat de paix amené par le traité de Laramie, il ne resta plus rien. L'expérience de Laramie avait réellement tenté d'établir des frontières convenant aux deux parties contractantes. D'autres efforts gouvernementaux connurent le même échec. En application de la politique de déplacement et d'établissement de réserve, une des expériences les plus sombres fut celle des Navarros durant la guerre civile et dont Bosque Reynado fut le théâtre. À la fois éclaireur, guide, commerçant, chasseur, trappeur et soldat, Christopher Kit Carson marqua de la personnalité cette période mouvementée des premiers temps de l'Ouest. À l'époque, il servait comme soldat sous les ordres de James Carleton, un rude officier de la vieille école. Les Navarros, cousins des Apaches, étaient des guerriers, mais pratiquaient sur une petite échelle l'agriculture, l'élevage des moutons et le tissage. Ils avaient appris ces différentes techniques des Indiens Pueblo et des Espagnols. En 1861 et 62, voyant que les Blancs se livraient des combats sans merci, ils entreprirent des razzias contre les centres de colonisation américains et mexicains. Après de faibles succès obtenus dans la guerre menée à l'est du Mississippi et à bout de patience, le gouvernement américain décida de régler le problème des Navarros une fois pour toutes. Les troupes les chasseraient de la région désertique et tourmentée qu'ils occupaient dans le Nouveau-Mexique et l'Arizona du Nord. Les Indiens seraient alors refoulés jusqu'à la réserve située à Bosque Redondo, sur la rivière Pecos. Dans cette région, qui dépendait de fortes humeurs, de nombreux dissidents apaches avaient déjà été concentrés. À la tête du 1er régiment de cavalerie, composé de volontaires du Nouveau-Mexique, le colonel Kit Carson entreprit la campagne contre les Navarros en cet été 1863. Et il s'engagea dans la région des Hauts Plateaux, coupé de ravins et parsemé de sommets rocheux. L'intérieur de ce pays n'avait pas fait l'objet de la part des Blancs que de rares incursions, et la cartographie s'en trouvait bien, bien pauvre. Pour les guider, Carson fit appel à des espions et à des éclaireurs Utes. Au cours de l'opération, il lui vint l'idée ingénieuse pour résoudre le problème Navarro. Carson proposa au général Carleton d'autoriser les Utes à conserver les prisonniers Navarro qu'il prendrait. Ces captifs auraient pu être vendus aux citoyens du Nouveau-Mexique comme domestiques ou main-d'œuvre agricole. Civilisés de la sorte, ces Indiens ne poseraient plus de problème. Fort heureusement, l'idée ne fut pas retenue. En fait, Carson avait très mal jugé de la nature de la campagne qu'il entreprenait. Il ne se rendait pas compte de la vulnérabilité de ses adversaires, pas plus d'ailleurs que ceux-ci ne mesuraient leur propre faiblesse. La terre sur laquelle ils vivaient subvenait à peine à leurs besoins, et la venue d'une armée blanche annonçait leur fin. Carson établit son quartier général à Fort Canby, à l'entrée du canyon Bonita, non loin de l'actuelle frontière du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. À partir d'une autre position militaire, située plus à l'ouest, du nom de Pueblo Colorado, il amorça une politique de la terre brûlée. À environ 2 heures du camp, rapporte Carson, lors de sa première grande attaque, nous découvrîmes et détruisîmes environ 28 hectares de maïs. 3 heures plus tard, nous campâmes dans du blé et de l'avoine. L'avoine, environ 6 hectares, fut donnée aux animaux et le maïs, qui couvrait une superficie d'environ 24 hectares, fut détruit. Une telle incursion lui permit de raser d'autres champs, de tuer quelques Indiens et d'en capturer un certain nombre. Il prit ainsi un total de 43 chevaux et mules, ainsi qu'un troupeau de 100 moutons et un second d'un millier de têtes. Un peu plus tard, le même mois, il s'enfonça dans le pays Navarro. Il détruisit, selon ses propres dires, beaucoup de potirons et de haricots, et dans une région de terre basse, 40 hectares du plus fin blé de Turquie qu'il m'ait jamais été donné de voir, disait-il. Les Navarros étaient trop disséminés et trop mal organisés pour résister. Les Indiens se savaient battus, mais ils hésitaient à se rendre car ils craignaient que les Américains ne les exterminent. Au cours de cet automne, Carson poursuivit sa campagne en détruisant les récoltes et en brûlant les villages, tandis que les Indiens prenaient la fuite à son approche. Il abattit les pêchers de nombreux vergers. Avec la venue de l'hiver, les Navarros, quoique toujours méfiants, commencèrent à se rendre. En petit nombre d'abord, puis de plus en plus. Ils étaient dans la plus grande pauvreté et certains même n'avaient jamais allumé de feu pour se réchauffer de peur que les soldats ne puissent les découvrir. Vers la fin de l'année, sur les ordres de Carson, plus de 1000 tonnes de céréales avaient été détruites. Il semble qu'il ait compris tout à coup les conséquences de ce qu'il avait fait. Il commença à adresser à l'Est des lettres pour réclamer des couvertures et des vivres destinés aux Indiens. En janvier 1864, il envahit le canyon de Shelly, la dernière place forte des Navarros. Un bastion qui semblait imprenable, mais qui se révéla sans défense. Certains des soldats de Carson avaient les pieds gelés et le froid faisait de nombreux morts parmi les Indiens. Ceux-ci n'avaient plus de refuge possible et se rendirent en masse dès qu'ils furent convaincus qu'on ne les exterminerait pas. Pour les Indiens des plaines, fournir des peaux de bison aux Blancs parut au départ une bonne affaire. Ils avaient toujours chassé pour leurs propres besoins et ils savaient qu'en tuant davantage de bisons, ils pouvaient obtenir des fusils, du tabac, du whisky et bien d'autres choses. Aux alentours de 1840, ils fournissaient près de 100 000 peaux par an aux commerçants qui les expédiaient par bateau sur les marchés orientaux où elles étaient transformées en couvertures et en pelisses. Cette intensification de la chasse par les Indiens commença à entamer le cheptel, toutefois évalué à 50 millions de têtes vers le milieu du siècle. Très vite, cependant, les Blancs prirent à leur compte le plus gros de cette chasse. Et ils se mirent à tuer les bisons avec une efficacité qui tenait du carnage. S'approchant sous le vent et se cachant derrière un rocher ou un buisson à 200, voire 600 mètres, ils pouvaient choisir leurs victimes sans alarmer le reste du troupeau. Un chasseur, un bon chasseur, inscrivait à son tableau de chasse 150 bisons dans une journée. Puis les écorcheurs s'attaquaient aux animaux et fichaient les peaux sur le sol pour les faire sécher. On fumait les langues et on les expédiait à l'Est où on les considérait comme un mets de choix. Vers 1860, cette chasse intensive, menée par des professionnels, aussi bien que le massacre constant mais moins organisé de ces animaux par les colons en route vers l'Ouest, avec leurs chariots bâchés, commencèrent à dérégler le rythme de migration du bison. À son tour, cette évolution amena les Indiens des plaines à quitter leurs anciens territoires de chasse de façon à suivre ces animaux tellement essentiels à leur vie. Partout où les Indiens se rendaient, ils étaient presque immédiatement rejoints par les chasseurs, les soldats et les pionniers. Nuage Blanc, un chef Sioux, se lamentait en ces termes. Partout où le blanc s'est installé, les bisons ont disparu et les chasseurs rouges vont mourir de faim. Après l'aventure de Kit Carson, commença ce que les Navajos devaient appeler la Longue Marche. La tribu progressa en direction du sud-est, à travers les montagnes de Nutunitcha et de Zuni. Puis, elle traversa une région accidentée jusqu'au Rio Grande et remonta ce fleuve jusqu'à Santa Fe. On l'amena vers le sud-est dans de grandes plaines s'étendant à travers un pays étrange. Elle était encadrée par l'armée qui accordait aux malades et aux vieux quelques chariots tandis que le reste marchait à pied. Nourriture et vêtements ne convenaient guère à l'expédition. Sur un groupe de 2500 Indiens, 126 moururent de faim et de froid avant même de quitter Fort Cambie. Durant la marche, on dénombra 197 victimes. D'autres convois s'amenuisèrent pour les mêmes raisons et certains Navajos furent enlevés et emmenés en esclavage à la suite d'attaques d'Indiens, de Blancs et de Mexicains qui avaient de vieilles rancunes à assouvir. Bosque Redondo se trouvait au terme de ce long trajet et Carson avait été nommé surveillant général de la réserve. Assez étendue pour contenir les appâts déjà présents, la réserve ne pouvait accueillir les 8000 Navajos. La situation était sans issue. Outre leur entassement, les Navajos se sentaient exilés sur un sol étrange. Ne souhaitant déjà pas vivre en compagnie des Apaches, ce peuple essentiellement pastoral ne pouvait pas non plus s'adapter aux habitudes sédentaires qu'exigeait l'agriculture. Sous le regard vigilant de leurs gardes, les captifs creusèrent 45 km de canaux d'irrigation. 800 hectares de terre furent labourés et ensemencés, principalement avec des céréales. Ces efforts s'avérèrent vains. La grottisse des moissons ravagea ces cultures et la totalité de la récolte fut perdue la première année. Elle ne fut pratiquement pas meilleure la seconde année. Et enfin, la pécosse déborda et détruisit l'ensemble des canaux d'irrigation. Incapables de subvenir à leurs propres besoins, les Indiens durent dépendre des rations alimentaires qu'on leur distribuait. Cette nourriture était souvent trop maigre et immangeable. Les Navajos n'étaient guère habitués à une alimentation à base de froment. Il leur manquait le maïs, les patates douces et les baies de genièvre de leur terre natale. Et ils détestaient l'eau trop alcaline de la Pécosse. Pour accroître leur misère, la réserve ne fournissait pas suffisamment de bois de chauffage. Par tous les temps, les Indiens devaient faire des dizaines de kilomètres pour ramasser des racines de prosopis qui leur servaient de combustible. Et à force de porter ces charges, ils avaient leur dos complètement lacéré. Après ces rudes journées, les nuits n'étaient guère meilleures. Les maigres abris frais de broussailles et de toiles n'empêchaient pas le vent de les fouetter. Par moments, les Navarros étaient obligés de se tasser dans des trous creusés à même le sol. De temps à autre, les Apaches effectuaient des razzias contre leur campement et dérobaient couvertures et vêtements. Les Navarros rêvaient de leurs canyons et de leurs montagnes. La quatrième année, ils ne plantèrent presque rien et les fugues commencèrent. Le gouvernement américain reconnut alors immédiatement la faillite de cette expérience de colonisation et finalement, il permit aux Navarros de regagner leur terre natale. Au nord du territoire des Navarros, les Blancs continuaient à affluer. Les grands espaces et la terre à bon marché les attiraient. L'invasion des plaines menaçait déjà la liberté des tribus qui étaient à présent prêtes à défendre leur mode d'existence. Chose inexplicable, les Blancs ne comprenaient pas la signification des fumées qui s'élevaient sur les plaines. Après avoir encore acquis des terres indiennes, le président Millard Fillmore s'était adressé au Congrès avec assurance. Une importante surface de terre a donc été mise à la disposition des colons et ouverte à la culture. Tout danger de confrontation avec ces bandes puissantes et belliqueuses a été fort heureusement écarté. Ça, c'est ce qu'il annonçait. Cette déclaration optimiste était totalement contraire à celle de Nuage Rouge, un chef Sioux, qui allait jouer un grand rôle dans la tragédie en train de prendre forme dans les plaines. Nuage Rouge disait « Sur cette terre, quelle est la première voix qui ait résonné ? La voix de l'homme rouge qui ne possédait que son arc et ses flèches. Ce qu'on a fait de mon pays, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas demandé. Les Blancs traversent ma terre. Lorsque l'homme blanc pénètre dans mon pays, il laisse un sillage de sang. » En 1862, en pleine guerre de sécession, Minnesota connut les outrances d'un conflit interne encore plus fondamental. Les Santi, de la branche est des Sioux, après avoir subi pendant 10 ans une série de changements traumatisants dans une réserve trop étroite sur le cours supérieur du Minnesota, lancèrent la première attaque des guerres indiennes. Ces hostilités allaient secouer l'Ouest pendant de nombreuses années. 11 ans plus tôt, pour une somme de $1,665,000 et la promesse de redevances annuelles, la tribu avait cédé 6 millions d'hectares de terre sur lesquels elle chassait. Quelques tentatives sincères avaient été faites pour intégrer les Sioux à la société américaine. Ainsi, on avait offert aux familles indiennes de s'installer dans des maisons en briques et de pratiquer l'agriculture. Un grand nombre d'entre elles continuèrent à vivre dans des tipis et utilisèrent les maisons en briques comme magasins. Outre la destruction de leur culture, les Sioux s'aperçurent qu'ils dépendaient de plus en plus des marchandises échangées. Ils devenaient des proies tout indiquées pour les négociants. Ceux-ci leur vendaient des marchandises à crédit et se faisaient ensuite directement payer par le gouvernement. Les Indiens ne voyaient donc qu'une faible partie des annuités que leur valait la cession de leurs droits héréditaires. Leur colère explosa lorsque, après un hiver de famine, les redevances annuelles arrivèrent en retard. Sortant en masse de leurs réserves, ils massacrèrent plus de 450 colons de la région avant d'être écrasés par le colonel Sylvet et par ses recrues qui avaient été hâtivement rassemblées. Même l'évêque épiscopal du Minnesota, Henry Wimple, un homme plein de compréhension et de compassion, qui par la suite intervint auprès du président Lincoln pour qu'il épargnât la plupart de ses révoltés, cet homme décrivit la tuerie comme étant le massacre le plus effrayant que l'histoire ait connu de la part des Indiens. Après ce soulèvement, bon nombre de Blancs estimèrent que la manière forte était la seule et unique politique que les Indiens pouvaient comprendre, tandis que d'autres, comme Wimple, prêchaient pour la paix. Des périodes de trêve et de combat suivirent cet incident. Pour régler définitivement le problème, la cavalerie américaine lança une campagne qui s'acheva en 1876, par la célèbre bataille de Little Bighorn contre les Sioux. Les grands événements ont souvent des causes infimes, et le massacre du Minnesota confirme cette règle. Le dimanche 17 août 1862, quatre guerriers Sioux, Killing Ghost, ce qui signifie « qui tue le fantôme », Breaking Up, ce qui signifie « qui casse », Brown Win, elle brune, et Run Against Something, butte contre quelque chose en rampant, rentraient à pied à leur réserve après une partie de chasse. Ils aperçurent quelques œufs de poule à proximité de la maison de Robinson Jones, un colon. Un de ses braves ramassa les œufs, mais son compagnon lui fit remarquer qu'ils appartenaient à des Blancs et qu'il valait mieux les laisser. Furieux, le premier Indien les jeta à terre et accusa l'autre de n'être qu'un pleutre. « Je n'ai pas peur des Blancs, et pour le prouver, j'en tuerai un !» Et aussitôt, il mit à exécution son propos de vantard. Jones, sa femme, sa fille et deux de ses voisins furent massacrés. Sautant sur les chevaux volés, les Indiens regagnèrent la réserve. Ils racontèrent ce qu'ils venaient de faire. Plusieurs villages Sioux se réunirent rapidement en conseil. Toute la nuit, les chefs délibérèrent. Ils pouvaient soit remettre humblement les meurtriers aux Blancs, soit déclencher une guerre générale. Les deux thèses furent défendues. Petit Corbeau, le plus respecté des chefs, prévint tous les autres du fait qu'il n'y avait aucun moyen de vaincre les Blancs. « Tuez-en un, deux, dix, et il en viendra 10 fois et 10 fois plus pour vous massacrer. » L'avertissement était prophétique. Mais il ne fut pas pris en considération. Se laissant persuader par les autres chefs, Little Crow ordonna que fût attaqué à l'aube l'agence gouvernementale qui se trouvait près de Redwood Fall. Selon des rapports ultérieurs, des groupes se formèrent et partirent pour tuer les colons. L'effet de surprise jouant en leur faveur, les Indiens ne rencontrèrent qu'une faible résistance. Bien que prenant quelques prisonniers et épargnant la vie de ceux qu'ils considéraient comme leurs amis, les assaillants tuèrent pratiquement tous les Blancs qu'ils rencontrèrent. Hey! Parmi les victimes du massacre du Minnesota, nombreux furent ceux qui n'avaient fait d'autre faute. Ils n'avaient rien d'autre à se reprocher que de se trouver sur les lieux et d'être blancs. Pour les missionnaires et les maîtres d'école qui s'étaient dévoués toute leur vie à la cause des Indiens, la révolte prenait des allures de revers particulièrement cruelles. Femmes et enfants se trouvaient sans protection car les hommes étaient loin du foyer et se battaient dans les rangs des unionistes. La colère des Indiens s'abattit surtout sur ceux qui les avaient abusés par le passé d'une façon infâme. Andrew Murick offrit, lui, une cible de choix. Ce boutiquier détestable, au cours de l'été, avait refusé aux Indiens de leur octroyer davantage de crédit en lançant cette remarque. « Oh ben s'ils ont faim, qu'ils mangent de l'herbe !» Et on le retrouva mort, la bouche emplie d'herbe. Quatre semaines après le début de l'affaire, les Sioux furent vaincus par le colonel Sibley, qui commandait les troupes et les forces de la milice. Parmi les 2000 hommes, femmes et enfants qui se rendirent, 392 furent jugés rapidement et 307 condamnés à mort. Sibley penchait pour des exécutions immédiates, mais Whipple, l'évêque du Minnesota, se rendit à Washington et plaida la clémence, bien que cette démarche fût largement réprouvée par ses ouailles. Consterné, cet homme d'église termina ainsi son appel solennel. « Je demande que les gens fassent porter tout le poids du blâme de ce grand crime sur ceux auxquels il revient et s'élèvent d'une même voix pour demander que soit réformé l'atroce système indien qui nous a toujours donné les mêmes fruits agonisants et sanglants. » Après avoir mûrement réfléchi, le président Lincoln commua la plupart des sanctions, mais conserva la peine capitale pour les viols et les meurtres. Le lendemain du jour de Noël 1862, 38 des guerriers Sioux furent conduits à un gibet spécialement dressé pour la circonstance et pendus simultanément. Lorsque la trappe fut déclenchée, rapporta un témoin, on entendit, de la part des soldats et des citoyens présents, un long murmure de satisfaction. Toutefois, trois des meneurs de la mutinerie étaient absents. Petit Corbeau lui-même avait gagné le Dakota du Nord et les deux autres chefs s'étaient réfugiés au Canada. Plus tard, ils furent enlevés puis ramenés aux États-Unis pour être exécutés. Petit Corbeau, lui, regagna le Minnesota l'été suivant et alors qu'il cueillait des baies, il fut tué par un fermier embusqué. À la fin de la guerre civile, la politique indienne se trouvait complètement désorganisée. Sur la frontière, les troupes combattaient les Indiens des plaines qui se livraient à des opérations de guérilla intermittentes mais farouches contre les emplettements des blancs. Les atrocités commises de part et d'autre enflammaient les passions et troublaient les consciences des blancs et des Indiens divisés en factions qui guerroyaient tantôt guerroyantes, tantôt faisant la paix. Au Colorado, une importante réunion de citoyens décida de débloquer 5000 dollars destinés à payer les primes pour les scalps indiens, étant spécifié qu'une somme de 25 dollars serait allouée si les oreilles faisaient partie du trophée. À Washington, une très forte coalition d'intérêts politiques militait en faveur de l'apaisement pour des raisons humanitaires et parce que la nation ne pouvait s'offrir le luxe d'une nouvelle guerre. À cette fin, en 1867, le Congrès vota la création d'une commission de la paix comprenant des civils aux idées démocratiques et des militaires rigides comme le général William Tecumseh Sherman. Si la commission ne parvenait pas à établir la paix malgré des négociations, on autorisait la mise en place de 4 régiments spéciaux avec mission d'imposer l'ordre désiré. Au cours des premiers mois de l'hiver 1864, les Blancs de Danvers fêtaient une grande victoire militaire. Les titres du Rocky Mountain News, un journal en date du 8 décembre, annonçaient avec éclat cet épisode historique. Une grande bataille contre les Indiens, les sauvages dispersés, 500 Indiens tués, nos pertes, 9 tués, 38 blessés. Sous un dernier titre, tous les détails, le journal donnait un compte-rendu de la bataille qui s'était déroulée à Sand Creek, dans le Colorado oriental, 9 jours plus tôt. La source principale de ces nouvelles était un bref rapport du colonel Shewinton, un ancien pasteur qui avait été promu au commandement du district militaire du Colorado. Il y précisait « À l'ombre de ce jour, j'ai attaqué un village Cheyenne de 130 tentes rassemblant de 900 à 1000 guerriers. Nous avons tué Chaudron Noir, Antilope Blanche, Petite Peau, sans compter 500 autres Indiens. Nous avons aussi capturé entre 400 et 500 poneys et mules. » Il adressait enfin des éloges à ses propres troupes. « Chacun s'est comporté de façon admirable. » Le 12 décembre, le journal annonça que le colonel Shewinton, qu'il surnommait à présent le « vieux cheval de bataille », serait en ville ce jour-là. Le 3e régiment, dont les soldats avaient formé le gros de la troupe, ne tarderait pas à suivre. Dans une lettre publiée le même jour, un soldat exultait. « Nous avons rencontré l'ennemi et les Indiens ont été à nous. Intrépides, les hommes du 3e régiment ont remporté leur plus grande victoire à l'est du Missouri et triomphé des sauvages. » Et l'auteur d'ajouter « Nous avons démantelé la tribu et nous pensons que désormais les colons ne seront plus harcelés par ces Indiens. » Quand les hommes du régiment paradèrent à travers les rues de Denver, ils furent acclamés comme des sauveurs de la frontière. Entre les actes d'une pièce qui se jouait au théâtre, certains apparurent sur scène, là, tout en exhibant des scalpes d'Indiens, ils racontèrent leurs exploits aux applaudissements des spectateurs. Cependant, les détails que rapportait le Rocky Mountain News étaient loin d'être complets et précis. L'histoire ne faisait pas état d'un curieux addenda que le colonel Shewinton avait fourni à l'autorité militaire commandant le département du Texas. « Je ne saurais terminer ce rapport, » écrivait Shewinton, « sans mentionner que le capitaine Silas Soule, compagnie D du 1er régiment de cavalerie du Colorado, fut mal avisé lorsqu'il a dit que, grâce au ciel, il n'avait pas eu l'occasion de tuer d'Indiens et qu'il a employé des expressions semblables. La conclusion semblait être en désaccord avec les joyeux propos du compte-rendu initial, et il y avait d'autres émissions. Quelques officiers, et des hommes de troupe aussi, s'inquiétaient du rôle qu'ils avaient joué lors de l'engagement. Certains écrivirent même à des personnalités de Washington. Et grâce à leurs lettres et à celles de commerçants et d'agents sympathisants, une image toute différente de la bataille commença à se dessiner. Avant la fin du mois, les colons du Colorado furent abasourdis d'apprendre que l'affaire de Sand Creek faisait l'objet d'une enquête menée par le Congrès et par l'armée. Ce document comportait plusieurs accusations. Les hommes du colonel Shivington auraient massacré des Indiens qui se croyaient sous la protection de l'armée. Et la plupart des morts étaient des femmes et des enfants. Et par ailleurs, les corps avaient été mutilés. L'enquête prouva que le rapport de Shivington était très incomplet et que d'après les dispositions des civils, certains propos constituaient de vrais mensonges. Deux commerçants, John Smith et Edmund Guerrier, qui se trouvaient sur les lieux au moment de l'attaque, déclarèrent que le village ne comportait que 80 à 100 tentes abritant tout au plus 500 personnes. Les deux tiers de ces Indiens étaient des femmes et des enfants. Les autres témoignages révélèrent que la plupart des pertes indiennes ne comptaient pas de guerriers. Et progressivement, la vision des faits du côté des Indiens commençait à prendre forme. Black Little et ses Cheyennes recherchaient réellement la paix. Ces hommes comptaient camper et vivre conformément aux ordres des militaires, et ils se croyaient sous la protection gouvernementale. En persuadant les siens de ne pas suivre le sentier de la guerre, Black Kettle avait été depuis des années un chef très considéré parmi les Indiens des plaines. La décision n'avait pas été facile, et la position adoptée semblait fructueuse. Deux ans plus tôt, les Sioux du Minnesota s'étaient engagés dans des désordres sanglants pour se venger des empiètements blancs et des promesses non tenues. Depuis cette date et succédant aux mineurs, de nouveaux colons n'avaient cessé d'affluer sur le sol indien. Loin dans l'ouest et jusqu'au Colorado, ils construisaient des routes et des fermes sur les vieilles pistes tracées par les bisons. Vers la fin du printemps 1864, les chefs qui prêchaient la paix, comme Black Kettle, furent débordés. Parmi les Indiens des Hautes Plaines, les partisans de la guerre prirent le dessus. Ils fondirent sur les fermes isolées, sur les caravanes, ainsi que sur les convois de ravitaillement. Pendant plus d'un mois, ils fermèrent à la circulation la route entre l'Est et Denver. Le courrier devait faire un détour par la mer, traverser Panama et remonter depuis San Francisco. D'authentiques histoires d'atrocités furent répétées aux gens de Denver à propos d'attaques, de mutilations, de viols et de captures de femmes et d'enfants. En juin, Ward Unget, un colon, sa femme et sa fillette âgées de 4 ans, furent tués à Box Thunder Creek, soit 45 km au sud-est de la ville. Leurs corps avaient été scalpés et découpés en morceaux. Ils furent ramenés à Denver, où plus d'un citoyen eut l'occasion de les voir. La ville fut saisie d'émotion et de colère. Avec de tels préliminaires, la tragédie de Sand Creek devenait pratiquement inévitable. Certains Indiens du clan de Black Tettle avaient même participé à ces attaques. Mais la plupart des Cheyennes n'avaient commis aucun assassinat et Black Tettle continuait à prêcher la paix. En septembre, deux mois avant le massacre de Sand Creek, il se rendit avec plusieurs chefs au camp Weld, près de Denver, pour y rencontrer John Evans, le gouverneur du territoire, Il rencontra aussi le colonel Shivington et d'autres officiels. À ses interlocuteurs, Black Kettle avoua sans embâge qu'il s'était trouvé dans l'incapacité de contrôler les jeunes guerriers. Et il affirma qu'il essaierait encore de le faire, car il souhaitait sincèrement la paix. Certains autres chefs pacifistes présents à la conférence de Camp Weld conduisirent leur bande jusqu'à Fort Lyon sur l'Arkansas comme preuve de leur bonne foi. Leur chef de poste leur distribua des vivres pour quelques jours et leur demanda de gagner un emplacement où ils pourraient vivre grâce à la chasse. Les Indiens ne purent déceler la moindre tendance belliqueuse dans les propos de ce militaire et aucun indice ne leur fit prévoir le sort que leur préservait Shivington. Ils campèrent sur les rives du Sand Creek au fond d'une grande courbe du fleuve. Black Kettle et White Antelope discutèrent de la situation avec les hommes de leur clan où les partisans de la guerre étaient encore nombreux et ils persuadèrent quelques familles de rejoindre les défenseurs de la paix à Sand Creek. Je vous raconterai l'histoire de la bataille de Sand Creek lors de la prochaine émission. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous dire au revoir. Je dis au revoir et merci à Stéphane qui toutouillait les boutons derrière la vitre. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.